La plus grande partie de nos concitoyens est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme uniquement occupé de survivre est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés.
Garde les yeux grand ouverts. Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on sait pas ce qui se passe.
Il y a une génération entière qui travaille à des pompes à essence. Fait service dans des restos. Qui esclave un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre.
Pardon.
C'est une mauvaise blague.
Que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne, ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus dans l'émission Les Yeux Grands Ouverts. Ce soir, nous avons un thème particulier, nous allons évoquer la Révolution française. Comme à chaque fois, on a une petite thématique par dimanche soir. Elle peut se succéder sur plusieurs dimanches lorsque le sujet est un petit peu lourd à évoquer ou un petit peu long. C'est certainement ce qui se passera pour la Révolution française, qu'on n'arrivera pas à traverser toutes les étapes de cette révolution qui est très complexe et qui est occupée par des... énormément beaucoup d'événements et qui sont surtout compliqués à analyser, donc on pourra pas se permettre de le survoler. Donc on aura une première émission ce soir qui entamera le sujet et ensuite on l'approfondira certainement dans une seconde et peut-être une troisième. Je pense pas que ce sera nécessaire, mais on verra comment se déroulent les choses d'ici là. Alors je vous rappelle déjà pour commencer, avant d'entamer le sujet, que l'émission Les Yeux Grands Ouverts possède un compte Facebook pour ceux qui veulent suivre l'actualité de l'émission. Donc le compte Facebook se trouve sur le réseau social du même nom, tout à fait. Vous tapez Les Yeux Grands Ouverts avec un S à grand et à ouvert, et Les Yeux avec un X évidemment, puisqu'il ne faut pas faire de faute de français, tout ça. Donc vous tomberez sur la page et vous pourrez ainsi suivre tout ce qui se passe, toute l'actualité de l'émission. Pour cela, malheureusement, vous êtes obligé de cliquer sur j'aime, sinon vous n'aurez pas le fil de l'actu de la page. Il y a également une boîte mail pour ceux qui veulent venir apporter des précisions, faire tourner des morceaux, ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est lesyeuxgrandsouverts@laposte.net. Évidemment, c'est tout attaché comme toutes les boîtes mail. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de machin. Donc les yeux X grand et ouvert avec un S. Voilà. Il y a également le blog sur le site de Radio Canut où vous pouvez retrouver tous nos podcasts. Donc il y a aussi un blog Radio Canut Les Yeux Grands Ouverts. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous allez sur le site de Radio Canut, cliquez sur le planning, sur l'émission qui se trouve le dimanche de 23h à midi, à minuit, c'est-à-dire Les Yeux Grands Ouverts. Vous cliquez dessus et vous tomberez directement sur le blog avec tous les podcasts. Vous pourrez ainsi réécouter toutes les émissions que nous avons faites sur l'autodéfense intellectuelle, les médias, la colonisation, le néo-métal et bien d'autres. Voilà. Dernière précision au sujet de la radio sur laquelle vous êtes en train de m'écouter, Radio Canus, 102.2 FM à Lyon. La radio voudrait pérenniser son activité, évidemment. Malheureusement, les loyers, comme pour vous et comme pour tout le monde, deviennent de plus en plus inabordables sur Lyon. Donc, pour pérenniser l'activité, l'objectif de la radio serait d'acheter des locaux. Alors, nous lançons une campagne de dons, puisque Radio Canut est une radio qui est totalement indépendante, donc ne touche pas d'argent de la pub, si ce n'est un tout petit peu de subvention de l'État pour pouvoir fonctionner et financer un peu le matériel. Donc, on a besoin de dons. Si vous avez envie de nous envoyer nos dons, ce serait sympathique. Il faut les envoyer à Radio Canut. L'adresse exacte, c'est donc Radio Canut, boîte postale 1101 69 201 Lyon, CEDEX 01. Voilà pour les petites infos concernant la radio et puis aussi l'émission, les petits liens sur internet et tout ça. Alors ce soir, comme je vous le disais en début d'émission, on va évoquer les révolutions françaises. Évoquer, on va pas faire seulement que l'évoquer, on va carrément essayer de la raconter. Bien entendu, on va pas rentrer dans tous les détails non plus, mais on va quand même essayer de donner une version de l'histoire qui est légèrement différente de la version originale, on va dire celle la plus classique qui est connue dans tous les livres d'histoire. Alors avant de commencer tout ça, il faut préciser quelque chose sur l'histoire. Parce que l'histoire est comme toutes les matières et comme toutes les sciences, si on peut, c'est pas vraiment une science, mais comme toutes les choses qui sont racontées, étudiées ou qui sont gravées sur du papier, elles sont sujettes à ce qu'on peut appeler la subjectivité. Il y a des manières de raconter une histoire déjà, parce que forcément les perceptions qu'on va avoir, ça ramène un peu au cours d'autodéfense intellectuelle que nous vous avions donné, il y a quelques émissions. Donc les perceptions qui sont les nôtres font qu'on a une manière de percevoir l'histoire qui nous est racontée et aussi de la retransmettre. Donc chaque être humain est évidemment esclave de ses propres perceptions. Nous allons changer de musique parce que ça je n'apprécie pas du tout. L'histoire, il y a plusieurs manières de la raconter. La subjectivité, on ne peut pas l'éviter. De toute manière, toutes les personnes qui vous racontent que l'histoire qu'ils vous racontent c'est la vraie, comme c'est ce que je vais certainement essayer de vous dire après, vont certainement se tromper. La seule manière pour laquelle on peut opter pour se permettre de pouvoir dire qu'on est objectif, même si on l'est jamais réellement, c'est de ne s'en tenir qu'au fait. Donc on doit être objectif, même si c'est impossible dans l'idéal, puisqu'on sait très bien qu'on est tous influencés par nos perceptions, il faut le faire en essayant de ne pas omettre les faits volontairement. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Je vais vous raconter l'histoire d'une manière orientée comme moi je l'aurais orienté ou comme certains l'ont raconté, et cette manière-là me plaît certainement plus que d'autres. Donc je vais essayer de vous retransmettre ça. Et la seule garantie que je peux vous donner pour être objectif, c'est que je vais ne cacher aucun fait. Bien sûr, les faits que je vais vous transmettre, je les orienterai à la manière que je trouve la plus juste, et ce ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Mais avant tout, rappelons que l'histoire est particulière selon la personne qui nous la raconte, et pour ça je vais citer quelques auteurs. Par exemple, Chateaubriand disait « Faites attention à l'imposture que l'histoire se charge d'écrire ». Ce qui signifie qu'il faut être attentif à toutes les manières dont on nous raconte l'histoire et surtout qui nous la raconte, car on ne sait jamais réellement si les faits qui nous sont retranscrits sont exacts. Simone Veil aussi, pour les personnalités un peu plus récentes, a dit un jour « Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole ». Elle insinue donc que les gens qui dominent la société écrivent eux-mêmes l'histoire, ce qui n'est pas totalement faux. Victor Hugo disait aussi « Dites le vrai, ne nous racontez pas un opprobre notoire comme on nous raconterait n'importe quelle histoire ». Il sous-entend que l'histoire qu'on nous raconte est souvent trop orientée, omet certains faits et est forcément racontée par les classes dominantes. Et une autre citation de Victor Hugo, celle-ci, où il dit « L'histoire a toujours fait sa cour aux puissants ». Je pense que là, c'est assez clair. Une autre petite citation, celle-ci c'est pour situer un peu dans le contexte révolutionnaire que va prendre notre émission. Celle-ci c'est Louis-Antoine de Saint-Just, le membre de la Convention qui était aussi au comité de salut public, on pourrait dire un robespierriste. Il a dit un jour « La vérité brûle en silence comme une lueur ardente dans un tombeau », c'est-à-dire que la vérité finit toujours par sortir. Et ensuite, une dernière petite citation. Au sujet de l'histoire de la Révolution française, et là c'est plutôt mon avis par rapport à celle qu'on lit dans beaucoup de livres, je dirais scolaires ou classiques, ou notamment la référence qui est souvent énoncée, l'histoire de la Révolution française présentée par Michelet, un écrivain. Et quand on connaît toutes ces versions de l'histoire et comme on a pu cracher sur la figure de certains personnages de cette Révolution, ça m'a fait penser à cette petite citation d'Auguste Blanqui, le communard parisien, qui a dit un jour, au sujet de ce qui s'est passé avec la pendant la guerre contre les Prusses, juste après Napoléon III, « Le cœur se serre au soupçon d'un immense mensonge ». Alors on va essayer d'être concis et précis pour raconter cette histoire de la Révolution française. Donc je vais vous raconter l'histoire de cette Révolution en m'attachant en particulier à un personnage qui est Robespierre, Maximilien Robespierre. Parce que tout simplement, c'est celui qui a le plus retenu mon attention. Alors on a tous des manières de voir cette révolution. Certains seront plus des hébertistes, du côté plutôt anarchiste. Moi je suis plus robespierriste, mais considère aussi que les hébertistes ont joué un rôle énorme aussi, bien entendu. Et d'autres seront dantonistes, ou je ne sais quoi, ou peut-être girondins, chacun sa vision du truc. Pour vous raconter tout ça, pour mettre en place ce petit récit que j'ai fait, je me suis inspiré de plusieurs auteurs et historiens qui sont notamment Henri Guillemin. Je suppose que tout le monde connaît un peu. C'était une personne, un Français qui a étudié beaucoup l'histoire et qui avait une émission à la télé belge qui s'appelait Les Dossiers de l'Histoire. Voilà, où il était très précis là-dedans, et je trouve que c'est l'un des plus rigoureux des historiens qui existent aujourd'hui, enfin qui existait il y a quelques années, puisqu'il est décédé depuis, malheureusement. Il y a également donc cette conférence, une conférence qu'il a faite sur la Révolution française et Robespierre, dont je me suis beaucoup inspiré. Il a également écrit un livre qui s'appelle Robespierre politique et mystique, donc qui s'attachait aux faits et à sa politique, et ainsi qu'à la pensée qui faisait vivre et vibrer Robespierre, quelque chose dont personnellement je suis beaucoup moins fan, toute sa pensée philosophique notamment vis-à-vis de ce qu'il appelait l'être suprême, qu'il ne confondait pas avec le dieu de la religion catholique, mais en quel il croyait. Donc voilà, je me suis inspiré de Henri Guillemin, qui lui aussi s'inspire d'énormément d'historiens, Lamartine, etc. Il s'est même inspiré de l'histoire de la Révolution de Jean Jaurès et beaucoup d'autres. Il a été farfouillé dans les petits papiers, comme il dit lui-même, ce qui a pour don d'énerver certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas farfouiller dans les petits papiers. Et lui, il soutient sa thèse en disant que les petits papiers apprennent souvent beaucoup de choses sur les faits de l'histoire. Je me suis aussi inspiré à l'histoire de la Révolution française d'Albert Soboul, qui a aussi publié des livres sous le nom de Pierre d'Héroclès, c'était le nom de jeune fille de sa maman. Voilà. Aussi des encyclopédies libres sur internet, même si des fois les informations sont un peu évasives, elles sont quand même comme elles sont remplies par un peu tout le monde, il y a quand même des choses intéressantes à piocher. Je sais que certains peut-être préféreront notamment la version de la Révolution française de Daniel Guérin, qui avait écrit La lutte des classes pendant la Première République, qui est un livre qui a été publié en deux volumes, et un autre qui s'appelait Bourgeois et bras nus, qui parlait de la période de ce que certains appellent la Terreur. Voilà. Donc moi pour l'instant j'ai pas lu ces bouquins là, donc je peux pas me permettre de les mettre en avant. Voilà. Donc on va essayer de se situer un peu dans le contexte économique de l'époque. Alors, on est à la fin du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, comme l'appellent certains, où il y avait tous les philosophes, Voltaire, Rousseau, etc., qui ont fait pas mal évoluer la pensée aussi à cette période, donc cassé quand même quelques barrières, notamment ils ont appris au peuple, même eux, à s'affranchir de la pensée religieuse. Pour les deux d'ailleurs, même si Rousseau avait une pensée un peu plus critique et n'était pas totalement anti-religieux, parce qu'il était aussi croyant, mais il n'aimait pas la vision cléricale de la croyance. Alors la fin du XVIIIe siècle, où arrive la Révolution, ça succède des guerres coûteuses pour l'indépendance de l'Amérique, hein, que la France a effectuée par le biais de Lafayette et financée par Louis XV, etc., etc. Donc la France se retrouve dans une situation compliquée au niveau financier, et on pourrait dire même une situation de banqueroute. Bien entendu, pour renflouer cette dette, comme ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle d'ailleurs, et ben on incite les gens à payer de plus en plus d'impôts, etc., etc. Bien entendu, les gens n'étaient pas forcément d'accord avec ça, puisqu'il y avait une injustice fiscale énorme, parce qu'on sait tous, enfin, peut-être que je vais vous l'apprendre à certaines personnes, mais ça m'étonnerait, qu'à l'époque, il y avait trois classes sociales, donc la noblesse, qui étaient tous les aristocrates, et le clergé, qui, eux, percevaient des droits féodaux par ce qu'on appelle les gens du tiers-état, c'est-à-dire les ouvriers, ou même les possédants, les patrons, etc., mais qui n'avaient pas de sang bleu ou aucun lien avec l'Église. Et le tiers-état, donc, qui constituait 97% du peuple, et c'était eux qui payaient tous les impôts pour la noblesse et le clergé, alors que c'était les seuls producteurs de richesses. Les aristocrates possédaient beaucoup de richesses, parce que tout leur était redistribué grâce aux impôts qu'on leur payait, ainsi que les seigneurs qui récupéraient énormément de choses, donc c'était ce que j'étais grosso modo en train de vous expliquer, alors que le tiers état, quand même, je répète, était 97% du peuple. Le tiers-état était en revanche très très disparate, c'est-à-dire qu'il était composé de plein de types de personnalités différentes, d'origines sociales très différentes. Ça pouvait aller du patron au banquier, jusqu'à l'ouvrier ou même la plus petite personne, quelqu'un qui aurait vécu dans la rue faisait partie du tiers-état aussi. Donc c'était quand même une classe sociale qui était censée être une et indivisible, alors qu'en fait il y avait des écarts de richesse ou d'origine sociale à l'intérieur qui étaient assez énormes. En plus, il n'y avait aucune égalité devant la loi, car les personnes, qu'elles soient patronnes ou etc., etc., selon la région où elles se trouvaient en France, n'étaient pas exposées aux mêmes lois, puisqu'elles étaient différentes selon les régions. Donc il y avait une totale inadéquation ou inégalité, on va dire, dans la patrie française. L'avènement en plus du début d'une petite ère industrielle, parce que c'était pas encore l'industrie qu'on a connue lors du 19e siècle, mais quand même, les choses commençaient à s'accélérer, on avait beaucoup appris et donc on était de plus en plus productifs. Cette ère donc a permis la création d'énormément de richesses qui étaient de plus en plus mal réparties. Les riches étaient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, comme ce qu'on est un peu en train de vivre aujourd'hui. Et il y avait une nouvelle classe très très riche qui s'était créée au sein du tiers-état, c'est-à-dire au niveau de la classe qui n'était ni noble ni appartenant à l'Église. Ils s'étaient énormément enrichis. Ces personnes-là, on les appelait, on pouvait dire qu'ils appartenaient à la richesse mobilière. C'était autrement des petits patrons, des banquiers également, où on disait tout simplement que c'était des notables. Voilà, c'est des gens, des possédants en fait, qui avaient réussi à gagner beaucoup d'argent, soit parce qu'ils avaient un peu de terrain, ou parce qu'ils avaient ouvert une entreprise de n'importe quel métier, etc., qui vendait plein de choses différentes. Donc voilà, ils avaient réussi énormément à s'enrichir. Et grâce au progrès de la science aussi, il y a eu à cette époque-là une forte augmentation démographique, parce que les gens étaient moins souvent malades et arrivaient à vivre un peu plus vieux que quelques années auparavant. C'est d'ailleurs, ce qui me semble, ce qui est précis dans le livre de Soboul, c'est les premières périodes où la démographie commençait à vraiment augmenter, parce que les gens vivaient plus longtemps, qu'il y avait plus de naissances qu'il y avait de morts. Enfin voilà, c'est ça exactement, que Soboul précise dans son bouquin. Donc il y avait une augmentation de la demande, puisqu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient en condition de consommer ou de manger, ou etc. Et donc forcément, comme c'est ce que certains appellent la loi du marché, qui dit augmentation de la demande, dit augmentation en flèche des prix. Donc voilà, les prix augmentaient énormément. À cause de très mauvaises récoltes aussi, pendant certaines années, et aussi de l'arrivée de la spéculation, puisque c'était le mode de la bourse et le mode de la financiarisation de l'économie sont arrivés. Eh bien, il y avait le début de la spéculation. Comme à l'époque, il n'y avait pas énormément de produits financiers, parce que c'était pas trop en vogue, et on n'en était pas arrivé jusqu'à ce degré d'abaissement. Les personnes qui étaient riches pouvaient se permettre de spéculer, mais spéculer sur les matières premières indispensables, genre le blé ou plein de choses comme celle-ci, les céréales, etc. Ce qui fait que, comme il y avait de la spéculation, forcément, il y avait une augmentation aussi. Parce que, par exemple, certains qui étaient très riches accaparaient le blé, attendaient que les prix montent en disant « oui, il y a 10 aides, donc augmentation de l'offre, et hop, après ils relâchaient le blé sur le marché. C'est un peu comme ce que faisait Goldman Sachs il y a quelques années avec le cuivre, ce qui a produit une inflation incroyable. Voilà pour ce qui est de l'inflation des prix. Alors, pour illustrer un peu, le calcul d'Ernest Labrousse, qui est un historien qui a étudié cette période-là, il a affecté, et donc ce calcul est est basé sur 24 denrées alimentaires de base et l'indice 100 est affecté au cycle qui correspond en, qui se déroule entre l'année 1726 et 1741. Il donne déjà 45% d'inflation. Oui, voilà, il se base sur ce cycle-là, mais bon, il donne qu'il y a 45% d'inflation entre 1771 et 1789. Voilà, exactement. Et surtout, quand il amoindrit la fourchette, il se rend compte qu'il y a une augmentation encore plus importante et une inflation encore plus importante sur la période de 1785 à 1789. Il y a une inflation de 65% des prix, ce qui est totalement énorme. Pour exemple, il y avait une augmentation de 66% sur le froment, qui est une céréale, 71% sur le seigle, 67% sur la viande, et il y a eu une augmentation aussi énorme de 91% sur le bois à brûler. Donc à l'époque, évidemment, ils n'avaient pas le chauffage au gaz ni le chauffage électrique, donc ils étaient obligés de se chauffer avec le bois. Alors qui dit bois qui augmente de presque 100%, forcément les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et ben, ils peuvent plus se chauffer, ils sont dans la misère. L'apogée de cette inflation arrive en 1789, toujours basé sur le même cycle, avec 127%, hein, c'est-à-dire le cycle de 85 à 89. Ça faisait arriver à la fin de l'année 89, 127% d'augmentation sur le blé et 136% sur le seigle, etc. Donc je vais pas tout vous détailler, mais c'est pour vous dire que les prix étaient arrivés à des chiffres totalement stupides et totalement incroyables, où les prix faisaient plus que de doubler. Forcément, donc c'est pour resituer sur le contexte économique. Le contexte politique de l'époque, le pouvoir était détenu par les nobles, le clergé et surtout par le roi. La société était divisée en trois catégories, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui lors des états généraux étaient réunies en trois classes et chacune d'entre elles avait une voix. Donc, ce qui veut dire que le clergé votait en une seule voix pour tout son ordre, également de même pour l'aristocratie, c'est-à-dire les nobles, et également pour le tiers-état. Donc forcément, les deux classes qui avaient des intérêts à ce que les droits féodaux existent votaient toujours dans le même sens, et le tiers-état tout seul ne pouvait pas faire grand-chose. Mais les états généraux étaient convoqués de temps en temps pour faire croire au peuple qu'ils participaient à la vie démocratique. Donc les catégories, comme je vous ai précisé, c'était le clergé qui représentait l'église, la noblesse c'était le sang bleu, les nobles, et le tiers-état c'était donc tout ce que je vous expliquais, les écarts qu'il pouvait y avoir de richesse entre les gens dans cette classe. On pourrait qualifier pour la plupart les personnes qui représentaient le tiers-état faisaient souvent partie de la petite bourgeoisie, hein, c'était rarement des ouvriers qui allaient représenter le tiers-état. Donc cet état de fait favorisait forcément le statu quo, comme on dit. Il y a également un contexte politique, c'est que la richesse mobilière et la nouvelle bourgeoisie et s'était énormément enrichie, comme j'expliquais tout à l'heure, mais elle n'avait pas le droit au levier de commande politique. Elle pouvait pas infléchir des décisions politiques, puisque c'était les nobles, le clergé ou au pire le roi qui décidait de tout ça. Et donc forcément, comme elle n'avait pas les leviers de commande, elle en avait un peu ras-le-bol, et elle voulait encore accroître plus ses richesses et avoir le droit de décider, parce qu'elle était devenue super riche, elle en avait marre de payer des impôts pour certaines personnes. Donc, il voulait mettre la main sur la politique du pays, de la France. Et pour ça, ils vont opter pour certains moyens qui vont commencer lors des états généraux, pardon, qui seront convoqués à Paris. On va se faire un petit interlude musical. Alors, pour se mettre dans le bain total de la Révolution française, on va s'écouter la Carmagnole. C'est un peu folklore, mais c'est marrant. Allez, en avant!
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, neuf ans plus quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. ton mari se croyant vainqueur, ton mari se croyant vainqueur. Connaissez peu notre valeur, connaissez peu notre valeur. Va Louis Gros Paour du temple dans la tour. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
C'est reparti pour les yeux grands ouverts. C'est un peu folklore, je vous rassure, on n'écoutera pas toujours des musiques comme ça. Mais ça représente quand même bien la Révolution française. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'étais rien demandé à toi. Tais-toi. Voilà, ça représente quand même assez bien la Révolution française. Puisque ça situe un peu quand même les faits, malgré tout. Il parle de Monsieur Veto dans la chanson, C'était pendant la période révolutionnaire, après le 14 juillet, lorsque la nouvelle Assemblée nationale a été, la première Assemblée nationale d'ailleurs a été désignée, que la première constitution a été écrite. On était dans un mode de fonctionnement qui était un peu le début d'une espèce de monarchie parlementaire. Et malheureusement, la constitution prévoyait que Louis XVI, le roi, avait un droit de veto sur chaque décision qui était prise. C'est-à-dire que dès qu'il n'était pas d'accord, il pouvait faire bloquer toutes les décisions qui étaient prises, qu'il a fait pendant à plusieurs reprises. Et donc forcément, il était surnommé Monsieur Veto par pas mal de personnes. Voilà, voilà, c'est un peu de ça qu'il parlait. Il parlait aussi de Marie-Antoinette, etc., etc. On va pas débriefer sur toute la musique non plus. Donc, pour reprendre un peu le fil de notre histoire, la suite de tout ça. Alors, donc, je vous parlais de la banqueroute de l'État français. Il y a des réformes fiscales qui sont envisagées à ce moment-là pour essayer de renflouer les caisses. Malheureusement, pour le bon roi, le peuple va pas se laisser marcher sur les pieds. Hein. Il n'a pas envie de se retrouver encore à devoir payer pour tout le clergé et la noblesse. Alors Necker publie en plus des résultats de compte où Necker, qui est le banquier de l'État français, un Suisse, qui travaillait un peu avec le roi, il publie des résultats de compte où le peuple tombe dessus et est forcément scandalisé. Il s'aperçoit que l'État a la moitié de son budget qui part dans la dette. L'État perçoit environ à l'époque 503 millions de livres de recettes pour 620 millions de livres de dépenses. Et le service de la dette occupe à lui seul 310 millions de livres, soit la moitié des dépenses. L'opinion publique est scandalisée d'apprendre que la cour, en plus, dépense 36 millions de livres en fêtes et pensions pour les courtisans. Et ensuite, il s'ajoute tout un tas de polémiques, hein, notamment sur le choix, sur les faits d'emprunter de l'argent pour rembourser ses dettes. Et c'est dénoncé à l'époque par Jean-Paul Marat, qui est un personnage qui aura beaucoup d'importance dans les faits ensuite de la Révolution, et aussi par Mirabeau, qui à ce moment-là a encore beaucoup d'importance. Et les rentes qui sont choisies donc sont considérées par Mirabeau et Marat comme ruineuses, impolitiques et immorales. Jacques Necker, donc, c'est lui qui prêtait à l'époque, comme il était un grand banquier suisse, il prêtait de l'argent à l'État français à des taux d'intérêt incroyablement scandaleux, et ça lui permettait en plus de spéculer derrière. On dénonçait cela parce que il prêtait de l'argent pour renflouer les caisses de l'État. Il prêtait à 14%. Donc forcément, l'État, difficile d'arriver à renflouer les caisses avec des prêts, avec des intérêts comme cela. Le peuple réagit lorsqu'on lui demande de payer pour toutes ces histoires, et notamment aussi pour la campagne qui a été faite aux États-Unis d'Amérique. Et le peuple réagit forcément, notamment en premier du côté de Grenoble, où les familles touchées par tout ça se révoltent, parce que forcément ils commencent à crever la dalle, ils en auront le bol. Le 7 juin, on envoie la garnison intervenir, et elle est reçue à l'époque par le peuple par des jets de tuiles. On leur jette des tuiles à la figure pour montrer qu'on n'est pas content, hein. À l'époque on rigolait pas. Et c'est ce qu'on appellera tout simplement la journée des tuiles, tout bêtement. Et suite à ces petits événements, des petits états généraux sont réunis au château de Visille, donc toujours du côté de Grenoble, hein, dans l'Isère. Aujourd'hui d'ailleurs, le musée de la Révolution française a ouvert ses portes il y a, je crois c'était sous Mitterrand, je ne me rappelle plus il y a combien d'années, mais il y a un musée de la Révolution française qui est au château de Vizille, là où sont réunis les premiers états généraux et où ont eu lieu les premiers événements, pardon, je bug un peu. Donc c'est un peu dans le même mode que les états généraux qui suivront, hein. Il y a les trois ordres qui sont réunis et décidés de la part des personnes qui sont réunis pour ces états généraux de ne plus payer les impôts jusqu'à que soient convoqués des états généraux nationaux par le roi, et nationaux et provinciaux également, puisque des états généraux en gros où le roi convoque toutes les parties de la province française et ainsi que Paris. Alors finalement ça finit par arriver, hein, puisque c'est pas possible, la France est obligée de renflouer ses caisses. Et le roi décide donc de convoquer des états généraux qui auront lieu le 5 mai, il me semble, hein, 5 mai 1789. Ils sont convoqués. Et donc il faut élire des représentants du peuple pour ces états généraux, les représentants du tiers-état. Les représentants du tiers-état demandent notamment à ce qu'on double leur nombre, parce qu'ils étaient à peu près proportionnellement aussi nombreux dans les assemblées que les représentants du clergé et de la noblesse, alors que évidemment ils étaient 97% du peuple, donc c'était totalement disproportionné. Ils demandent à ce qu'on double le nombre de représentants. Alors Louis XVI accepte directement, hein, il se pose pas de question, mais bien entendu il accepte qu'on double le nombre de députés du tiers état, mais ce qu'il oublie de leur préciser, il leur précise pas du tout d'ailleurs, c'est comment se dérouleront les votes, si ce sera par tête ou tout simplement par ordre, c'est-à-dire si il y aura juste un vote pour le tiers état ou si tous les députés du tiers état donneront leur avis au même titre que tous les autres députés de la noblesse ou etc. Il ne leur précise pas ça tout simplement parce qu'il n'a pas envie et qu'il sait que de toute manière, même si les députés du tiers état sont deux fois plus nombreux, au final ils n'auront qu'une voix face à la noblesse et au clergé, donc le statu quo sera conservé. Et tout ce qui se passe, c'est que pas grand chose n'évolue. Puisque pendant ces états généraux, notamment, Necker fait un discours qui dure à peu près 3 heures, et il ne parle que de finances, et il parle d'aucune évolution politique. Donc les députés du tiers état commencent par prendre les boules, ils finissent par se convaincre entre eux de faire quelque chose, ils arrivent même à convaincre certaines personnes dans le clergé, puisqu'il y avait des personnes de l'église qui étaient forcément ouvertes à la discussion, à la situation des pauvres également aussi. Et même dans la noblesse, il y a certaines personnes qui se joignent à leur cause. Et alors, le 20 juin, le roi décide de faire fermer la salle des menus plaisirs, lieu de réunion du tiers-état. Alors ceux-ci se dirigent vers ce qu'on appelle la salle du jeu de paume. C'est ce qu'on appelait le jeu de paume, c'était le tennis de l'époque un peu. Et donc tous les députés se réunissent dans cette salle voisine avec un grand enthousiasme, et donc ils prononcent ce qu'ils appellent le serment du jeu de paume, où ils s'engagent à ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution écrite à la France. S'ensuit le 23 juin, lors d'une séance royale, encore une fois pendant ces états généraux où tous les ordres sont réunis, une réunion donc où Louis XVI ordonne aux députés de siéger en chambre séparée, alors que les députés de la noblesse et du clergé obéissent, ils finissent par s'en aller, et ben les députés du tiers-état, eux, refusent, et certains du bas clergé également restent immobiles et restent ici. Bailly, qui est à ce moment-là, il me semble, le maire de Paris, et élu président et représentant des députés du tiers-état, parce qu'il est doyen, il lance au marquis « Allez dire à votre monsieur que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne », puisqu'à ce moment-là, ils avaient décidé entre eux qu'ils étaient la nouvelle assemblée nationale. Donc la nouvelle est donnée au roi, je ne sais pas si vous vous rappelez, Louis XVI avait dit un truc du genre « Ils veulent rester, et ben foutre qu'ils restent », etc. Et Mirabeau ajoute aussi à la personne qui vient leur demander de quitter la salle, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous ne partirons que par la force des baïonnettes. Donc face à la résistance du tiers état, Louis XVI les laisse dans la salle. Cette résistance finit par infléchir un peu les décisions qui sont prises. Tout le monde est invité à débattre ensemble le 27 juin, etc., etc. Mais on va commencer à quitter un peu les grands récits d'histoire, ça c'est les grandes lignes, et puis c'est un peu la version officielle, même s'il y a des petites précisions qu'on n'entend pas toujours, pour préciser un peu ce qu'était la situation des petites gens à l'époque. Alors, le salaire moyen d'un travailleur à l'époque, c'était 20 sols par jour, parce qu'il y avait plein de types de monnaies différentes, c'est super compliqué d'ailleurs, j'ai essayé de décrypter comment ça fonctionnait à l'époque, c'est incompréhensible. Il y avait la sol, il y avait les sous, et il y avait, je sais plus quoi, il y avait une autre monnaie encore, qui avait des valeurs différentes, et qui au final représentaient la même chose, c'est super compliqué. Alors, donc, à l'époque, un salarié travailleur gagnait 20 sols par jour, étant donné, en plus, il faut tenir compte du fait qu'il n'avait pas le droit de travailler pendant les jours fériés et le dimanche, puisque à l'époque, on était dans un pays qui était très religieux encore. Le prix de la miche de pain, lui, était équivalent, il était à peu près, donc la miche de pain, c'était 1 kilo de pain, était de 12 sols. Et en plus, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y avait énormément d'inflation. Donc là, des prix que je vous donne, c'est aux alentours du milieu de l'année 1789, avant les événements. Ça continuait d'augmenter. Autant dire que les gens mangeaient pas très bien. Ils arrivaient à manger peut-être, et encore c'est pas sûr, mais ils pouvaient pas se laver, ils pouvaient pas se loger, ils pouvaient pas se chauffer, etc. Hein, quand vous faites le ratio, 12, en imaginant qu'ils ne mangent qu'un kilo de pain par jour, c'est-à-dire 12 sols, et ils gagnaient 20 sols par jour. Donc forcément, il restait pas grand-chose pour tout le reste. Le jour où le prix de la miche de pain est au plus haut, c'est le 14 juillet, où elle atteint 14 sols, c'est-à-dire les trois quarts du salaire journalier d'un ouvrier. Alors en 1788, pour en revenir un peu au petit peuple, les insurrections, elles n'arrêtaient pas dans tous les sens. Il y avait des gens qui étaient vraiment dans la misère et qui savaient plus quoi faire et qui se révoltaient pour qu'on leur donne un peu plus. Ça se révoltait un peu dans tous les sens, notamment en avril 1789, ça on vous en parle jamais, on ne parle pas de ça. On va plutôt vous raconter des histoires comme je vous racontais il y a 5 minutes, sur Mirabeau qui fait le malin devant le marquis de machin bidule. Mais en 1789, à Paris, il y a des émeutes au Révillon. On va les appeler comme ça d'ailleurs, les émeutes du Révillon. Et dans un quartier qui s'appelle le quartier Saint-Antoine, où on fait tirer sur la foule et il y aura à peu près entre 150 et 200 morts. Il y avait donc à ce moment-là énormément de gens qui crevaient de faim et je vous demande de mettre ça dans un petit coin de votre tête et de vous en rappeler un peu plus tard dans le récit. Donc les états généraux, j'y reviens, se sont transformés en assemblée constituante et tout se passe bien. Le roi commence à reculer un peu, il nomme Necker ministre des Finances, etc. Donc ça veut dire que ça va permettre de pousser quelques leviers pour la bourgeoisie, qui est très satisfaite que ça se déroule comme ça. Cependant, le 12 juillet, Louis XVI décide de changer d'avis, fait marche arrière, il vire Necker, et il nomme en ministre Breteuil, ce qui est en fait l'équivalent d'un gouvernement d'extrême droite, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour la monarchie, quoi. Et forcément, ça ne plaît pas à tous les députés du tiers-état, heureusement pour eux, j'ai envie de dire, mais malheureusement pour tout le reste, les gens continuent à crever de faim dehors. Donc ce que je vais dire, c'est pas une histoire de polémique ou une version complotiste de l'histoire, c'est la triste réalité. Et ben les personnes qui font partie du tiers état, ou même la bourgeoisie en général, et ben elle va se servir de ce petit peuple qui crève de faim et qui est complètement désespéré et qui est prêt à tout pour s'en sortir, quoi. Ils vont se servir de la plèbe comme bélier, en fait, pour pouvoir faire plier le roi. Le 13 juillet, la bourgeoisie d'affaires décide d'ouvrir les invalides et de distribuer des armes au peuple pour qu'il se venge et fasse une insurrection, en fait, tout simplement. Il y a notamment présent ce jour-là Boscari, un agent de change, le banquier Pergaud et monsieur Delesser, qui est un banquier suisse aussi. Il distribue des armes aux petites personnes, aux gens, comme ça. Bien sûr, eux, ils iront pas au combat, ils vont pas prendre les pistolets et les fusils et essayer de prendre la Bastille ou quoi que ce soit, ils feront rien du tout, mais ils vont distribuer les fusils aux personnes. On brandit toujours la Bastille d'ailleurs comme un symbole, car en fait à l'époque c'était une prison qui était un grand symbole de l'autocratie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on décide indirectement, sans que ce soit vraiment réfléchi, de frapper à cet endroit-là. Et en fait, la Bastille, elle servait plus à rien à l'époque, puisqu'il restait 8 prisonniers dedans. Donc il y avait juste énormément de militaires autour, mais c'était plus un symbole qu'autre chose. Donc, suite à la prise de la Bastille, je vais pas rentrer dans les événements de cette prise. Les gens sont autour, demandent à ce qu'on ouvre les portes, etc. Au début, on refuse. On finit par sortir les canons. Les gens commencent à avoir peur. Il y a quelques personnes qui sont tuées au passage. On tire sur quelques gens. Il y a des personnes qui sont mandatées pour aller négocier avec les gens qui sont dans la Bastille. On leur offre un repas bien gras. Ils traînent. Finalement, on recule les canons et on finit par ouvrir les portes et laisser rentrer les gens. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi. Voilà, mais après, c'est les faits. C'est une bataille. Les gens finissent par rentrer et arriver dans la Bastille avec des flingues. Donc voilà. Donc, ce symbole est tombé. Les états généraux, les députés du tiers-état, la bourgeoisie est très contente qu'on soit arrivé à ça. Et donc la constitution va être écrite. Et aussi la déclaration des droits de l'homme. Donc ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient. Le roi finit par reculer. Il rappelle Necker. et le renomme au gouvernement. Mais la bourgeoisie, elle a quand même au passage pris un sacré risque, puisqu'elle elle a armé le peuple, qui est capable, susceptible à n'importe quel moment de se retourner contre elle, hein, puisqu'ils finissent par être armés. Alors comment va-t-on faire, me demanderez-vous, pour pallier à ce problème? Eh ben, on va tout simplement décider de racheter les fusils 40 sous aux gens. On va tous leur donner 40 sous, on leur propose de l'argent. Donc forcément, les gens crevent à la dalle à l'époque. On leur avait donné un fusil pour rien du tout. Ils ont l'impression que souffle un vent de liberté à ce moment-là. Ils se disent, on a peut-être fait le plus dur. Tout ira mieux maintenant. Alors les gens, peut-être pas tous, mais en très très majeure partie, ils décident de vendre leurs pistolets pour, enfin leurs fusils, puisque c'est pas des pistolets à l'époque, de vendre leurs fusils 40 sous pour récupérer un peu d'argent. Et les fusils donc finissent par revenir puisqu'on propose cet argent. Voilà pour un peu pour les faits de ce qui s'est passé pour le 14 juillet, hein, c'est un petit peu peut-être éloigné de la version officielle, mais c'est ça qui s'est passé en fait, hein. C'est pas au bon gré certaines personnes qui étaient en train de négocier aux états généraux qui ont décidé de prendre eux-mêmes leurs pistolets et d'aller prendre la Bastille parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Non, ils ont poussé les gens à le faire, hein. Et les personnes qui sont mortes au passage, c'est la petite plèbe, celle qui creve la dalle. Voilà, donc on va écouter un petit morceau, hein. Tout à l'heure vous avez une petite introduction parce que j'ai pas fait attention et continue à tourner. C'est un morceau de Damien 16 qui s'appelle La fin des mondes.
Tu dates pour les notions, le sourire du pognon sur le cœur. Des villes épuisées, toi tu cherches du blé pour te payer. Une vie à crédit, le cœur dans la scie, morne pleine. Non, c'est pas Waterloo, c'est le quai des métros. Voici la scène. Des abonnements aux choses, t'as vu qu'est-ce que ça cause aux gens la merde. Pour des printemps sans rose, ils peuvent vendre mes proses, je les emmerde. Quelques maîtres banquiers pour des millions de noyés dans les métros. Ces gens qui ont des rêves, ces gens qui ne soulèvent que la croix sur leur dos. Pour vivre, faut payer, pour s'aimer, faut payer, pour mourir, faut payer. Puis faut des assurances pour bien nourrir la panse du souffre spéculé. Eh bien qu'ils crèvent tous, puisqu'ils en veulent encore du courbe échelle. Ici même l'espoir a le goût et se croire du règne des machines. Si c'est la fin des mondes, si c'est l'enfer, si t'as le cœur qui tombe.
toujours dans les yeux grands ouverts sur Radio Grand Ouvert. C'est pas facile. Alors voilà, comme ça vous saurez quoi la musique d'après. Donc on va reprendre un peu le thème de ce soir, la Révolution française, par le biais de Robespierre. Pour l'instant je l'ai toujours pas évoqué, si ce n'est au départ de l'émission, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, la toute petite bride d'introduction que je vous ai citée avant le générique de l'émission, c'était un texte de Robespierre de 1788. Le petit texte, de toute façon j'aurai le temps de le réévoquer durant le récit de la Révolution. Voilà, alors on en était au 14 juillet, donc tout s'est bien passé pour la bourgeoisie et puis pour les gens aussi, parce qu'on a quand même réussi à faire tomber le symbole de l'autocratie, la Bastille. Donc on prend un peu de pouvoir, se met en place une constituante où on est chargé d'écrire une constitution, donc les députés sont élus pour écrire cette constitution dans une constituante. Mais sous quelles conditions ? On va l'évoquer petit à petit dans le récit. Alors le 15 juillet, le lendemain, c'est la date de la création de ce qu'on appelle la garde nationale. Alors beaucoup de personnes dans l'histoire officielle nous racontent oui, c'est le plus beau jour de l'histoire de la France, etc. C'est là que s'est créé le sentiment d'appartenance à la nation. Il n'y avait plus de disparité entre les gens, on était tous des citoyens français à part entière, machin. C'était plus la garde suisse qui s'occupait de protéger le roi, mais c'était une garde nationale. C'est magnifique, etc. Bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans les faits. En fait, il s'agissait tout simplement lors du 15 juillet du premier congrès armé de la bourgeoisie, hein, la bourgeoisie qui s'arme et qui prend un peu le pouvoir dans le pays. Pourquoi d'ailleurs, me direz-vous, peut-être que ce pourrait être des allégations gratuites que je suis en train de vous tenir, qu'en fait les gens étaient vraiment égaux à l'époque, c'était vraiment un chamboulement, et je vais vous expliquer pourquoi. La déclaration des droits de l'homme est écrite. Alors dans les faits, ce qui est écrit dans la déclaration, c'est tout à fait intéressant et des choses très très bien. Malheureusement, ce qu'on oublie de préciser, c'est que la constitution qui en passe d'être écrite distingue deux types de citoyens. Les citoyens actifs et les citoyens passifs. Donc il y a deux types de citoyens. Les citoyens actifs sont ceux qui ont le droit de vote, parce que souvent ce sont des gens qui sont possédants, qui ont un minimum d'argent, donc on les estime assez importants et intéressants pour pouvoir prendre des décisions et voter. Donc, et pendant ce temps-là, à côté, ben, il y a ce qu'on appelle les citoyens passifs, qui eux n'ont pas le droit de vote et n'ont rien le droit de faire à part travailler et faire comme ils peuvent pour survivre. Voilà, donc déjà premier mythe qui peut être brisé pour certaines personnes qui n'étaient pas au courant. Donc à l'époque, la constitution, elle est bien mignonne, mais elle garantit pas l'égalité pour tous. Et créée aussi à l'époque la loi qui est appelée loi Le Chapelier. Cette loi dit qu'il est interdit aux ouvriers de se coaliser pour enchérir leurs droits. Ce qui signifie que, en gros, ce qu'on appellerait aujourd'hui un syndicat, ou même ce qu'on appelait à l'époque les bourses du travail, c'est totalement interdit. Les ouvriers n'ont pas le droit de se réunir pour décider ensemble de faire des actions, pour défendre leurs droits ou en obtenir de nouveaux, peut-être, pourquoi pas. C'est interdit par la loi Le Chapelier. Donc vous voyez, hein, la belle France de 1789 libérée par la Bastille, elle est quand même pas très très jolie, puisque l'égalité, elle est un peu illusoire. Alors, comme je vous expliquais, une assemblée constituante va être élue. Mais évidemment, comme les ouvriers pauvres, les citoyens passifs n'ont pas le droit de vote, et bien forcément on va se retrouver avec une chambre de notables, hein, donc une chambre de possédants, mis à part un personnage dont je vous parlais, hein, Maximilien de Robespierre. Bon, c'est pas un ouvrier pour autant, hein, mais c'était un avocat. Comme je l'expliquais dans l'intro, lui, il ne parle pas comme tous les autres, hein. Dans le petit tract que je vous ai lu au début, c'est un tract qu'il a écrit en 1788 et qu'il a fait distribuer. Ce petit tract dit les choses suivantes. La plus grande partie de nos concitoyens est réduite par l'indigence, c'est-à-dire la pauvreté, à ce suprême degré d'abaissement où l'homme uniquement occupé de survivre est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. À l'époque, c'est quand même différent du vent qui souffle, et même aujourd'hui, d'ailleurs, certains hommes politiques sont qualifiés de fous furieux alors qu'ils disent exactement la même chose. Donc il dit en gros aux personnes, mais oui, vous êtes pauvres, vous galérez pour survivre, et il va falloir quand même que vous essayiez de prendre conscience de ce à quoi vous avez le droit, pardon, et vous êtes des exploités, prenez-en conscience, c'est ça qu'il dit aux gens en fait. Donc ce personnage, c'est Maximilien de Robespierre, c'est un petit avocat. Il a une particule, hein, Maximilien de Robespierre normalement, mais ce n'est pas un noble pour autant, il fait partie du tiers état. Lui, donc, qui, comme je vous parlais juste avant, dénonce toutes les réformes qui ont été votées, hein, et qui prétendent que l'égalité est pour tous, alors qu'au final, elle distingue les citoyens. Alors, à ce sujet, il a dit, en parlant des citoyens actifs et passifs, et notamment aussi de la création de la garde nationale, il disait, vous voulez diviser la nation en deux classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Il dénonce le fait qu'on note le pouvoir à la noblesse et au roi, hein. Il n'était pas pour, hein, non. Mais il dénonce l'hypocrisie, puisqu'en fait, il se rend compte qu'on pique le pouvoir aux nobles et aux rois et aux clergés, mais juste pour la redistribuer aux personnes, aux bourgeois. Voilà, on leur transfère la puissance et les pouvoirs. À l'époque, il était totalement détesté, bien entendu, puisque c'était l'un des seuls à parler comme ça dans l'Assemblée. Parce qu'il défendait les pauvres, tout simplement. Voilà pourquoi il était détesté. Par exemple, un personnage comme Mirabeau, hein, qui avait un beau rôle, hein, vous rappelez-vous, dans les états généraux, où il passe pour le défendeur, le grand défenseur du peuple, le pourfendeur de la royauté, qui, en plus, était acheté, hein. Quand je vous dis ça, c'est pas juste une polémique ou une espèce de théorie du complot. Il était vraiment acheté, vous pouvez regarder partout, vous pouvez chercher. Mirabeau est réputé pour avoir été acheté par la cour, hein. Il disait donc, Mirabeau, au sujet de Robespierre, quand Robespierre monte à la tribune, il me fait penser à un chat qui a bu du vinaigre. Pour vous dire à quel point il l'appréciait. Et il a dit encore autre chose à son sujet, il a dit, Robespierre est disqualifié pour la politique, car il croit tout ce qu'il dit. Voilà, mais donne une bonne image de la politique. Il veut dire qu'en gros, que normalement, si on veut être un homme politique, on doit mentir tout le temps. Et comme Robespierre ne le fait pas, qu'il dit la vérité et qu'en plus il y croit, et ben forcément il est disqualifié pour la politique. On a aussi un petit extrait qui était mis en avant par Henri Guillemin, qui a farfouillé dans les papiers de je ne sais qui encore. Un extrait du Journal de Paris du 28 octobre 1789 qui dit. Hier, Monsieur Robespierre est encore monté à la tribune, on s'est aperçu qu'il allait encore parler pour les pauvres, et on lui a coupé la parole. Voilà, donc à l'époque, la révolution est en train d'avorter, Robespierre s'en rend compte petit à petit que c'est une révolte, une bagarre de nantis, une bagarre entre richesses mobilières pour essayer de déposséder les nobles et le clergé. Donc, on va approfondir un peu sur qui est ce Robespierre. Son père, notamment, est parti quand il était tout petit, au moment où sa mère est décédée d'un enfant qu'elle allait mettre au monde, approximativement à 9 ans. Il y a plusieurs versions différentes, donc moi j'ai retenu celle-ci. Il a un petit frère et deux petites sœurs. Son oncle lui obtient une bourse quand il est jeune, grâce à l'évêque d'Arras, la ville où il est né. Il fait des bonnes études et il finit par devenir avocat. Sa doctrine à lui, parce que comme n'importe quel homme politique, on le définit par rapport à sa doctrine, lui, c'est, à l'époque, il se réfère à un philosophe des Lumières, Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est un livre que vous pouvez trouver d'ailleurs aujourd'hui, où Jean-Jacques Rousseau définit et essaye de trouver une cohérence et un mode de fonctionnement de la société qui pourrait être différent et plus égalitaire. Pour illustrer ça, je vous cite Jean-Jacques Rousseau dans une phrase qui représente beaucoup sa pensée, « Aucun homme n'a sur ses semblables une autorité naturelle ». Voilà la pensée de Jean-Jacques Rousseau, il pense qu'on peut être tous égaux. Il s'oppose Robespierre philosophiquement, d'ailleurs Robespierre et Rousseau aussi, puisque Robespierre s'inspire énormément de Rousseau. Ils s'opposent tous les deux, même si à l'époque Rousseau est mort évidemment. Ils s'opposent philosophiquement aux Girondins, qui eux sont plus des voltairiens. Alors, Voltaire souvent il est louangé, hein, on dit oui machin, il a fait énormément avancer les mœurs. C'est pas totalement faux, notamment sur le côté je m'affranchis de la religion, etc. C'est vrai qu'il a fait avancer la pensée, mais il avait quand même une doctrine particulière, et cette petite phrase la met en avant aussi, celle-ci aussi. Et relayé par Henri Guillemin, il dit, Voltaire, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. En gros, il adore le statu quo aussi. Il pense qu'il doit y avoir un petit nombre de personnes qui donnent du travail à tout le peuple et qui mangent tout ce que produit le petit peuple. Voilà, en gros, il veut qu'il y ait une classe dominante, ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple une oligarchie, qui doit diriger le pays pour lui, il trouve ça légitime. Voilà, donc c'est deux modes de pensée totalement différents. Robespierre, au sujet de la doctrine de Voltaire, en dit cela. Et alors, si on le sort totalement du contexte, on pourrait penser à ce que pourrait dire un député du Front de Gauche sur la philosophie libérale. C'est exactement transposable. Robespierre dit donc, au sujet de la philosophie de Voltaire, cette espèce de philosophie pradique qui réduisant l'égoïsme en système, considère la société comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons adroits. Voilà ce qu'est la morale de Candide selon lui. Voilà, donc en gros, il dénonce le fait que pour certaines personnalités, le seul objectif c'est de gagner de l'argent et de réussir sa vie, tout ça, tout ça. Donc les décisions qui sont prises suite aux états généraux et l'avènement de cette constituante, notamment il va y avoir à l'époque, on va décider de saisir tous les biens de l'église pour pouvoir créer des richesses avec, puisqu'il faut renflouer cette fameuse dette et que les députés du tiers état ont réussi à infléchir la politique qui était décidée par le roi. Donc on va à l'époque décider de nationaliser tous les biens de l'église, c'est-à-dire que les prêtres vont devenir prêtres et assermentés en fait, ils appartiendront à l'État, comme tous les biens qui seront saisis par l'État. Bien entendu, il y aura ce qu'on appellera plus tard les prêtres réfractaires, c'est-à-dire certains prêtres qui refuseront d'être assermentés par l'État et qui seront dans la clandestinité et pour la plupart seront pourchassés. Voilà pour la petite histoire concernant la manière dont on va essayer de régler le problème de la dette. Donc il y a cette fameuse constituante où certains personnages comme Robespierre par exemple s'aperçoit qu'elle est en train d'avorter la révolution, puisque c'est une chambre de notables hein, au final, alors que les choses n'évolueront jamais vraiment, et décide de proposer une décision, de proposer une loi, quelque chose, un décret ou quelque chose dans ce genre-là, où en fait toutes les personnes, tous les députés qui ont participé à la constituante ne pourront pas faire partie de l'Assemblée nationale qui sera élue juste derrière cette constituante. C'est-à-dire, quand on fait une constituante, on élit des personnes pour qu'elles écrivent la constitution, et ensuite c'est terminé. Voilà, donc ça a d'ailleurs un principe qui est remis en place dans, notamment beaucoup en Amérique du Sud. On décide que la constituante, ce sont des députés totalement indépendants qui sont élus, et ils écrivent la constitution, et après ils n'ont plus le droit de se représenter. Ça permet d'éviter les conflits d'intérêts. On ne vote pas des lois pour pouvoir ensuite préparer son pantouflage. Voilà, donc Robespierre propose à tout le monde que ben on ne puisse pas être réélu à cette Assemblée nationale suite à cette constituante. Les députés finissent par accepter au final. Et puis voilà. Donc la constituante permet d'écrire la constitution et elle est écrite. Voilà, voilà. Alors ensuite, il y a les législatives qui arrivent par la suite. Elles seront élues et donc certains députés ne pourront pas se représenter, notamment ceux qui étaient dans la constituante. Et les premières décisions qui vont être prises par la nouvelle assemblée législative, c'est notamment d'aller faire la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Alors ça, ce sera une décision qui sera prise sous l'inflexion des députés girondins. Pour situer un petit peu, il y a trois camps qui sont représentés dans l'Assemblée nationale. Il y a ce qu'on appelle les Girondins, qui serait l'équivalent aujourd'hui d'un député libéral de droite. Il y a ce qu'on appelle le Marais. Les Girondins sont quand même très de droite, énormément de droite. Il y a donc ce qu'on appelle les députés du Marais, la Plaine, c'est-à-dire le centre, le ventre mou un peu, ce qu'on pourrait aujourd'hui situer aux alentours de l'UDI, le centre et le centre-gauche. Voilà, le Marais, les personnes qui sont libérales et qui se plient à la doctrine européenne. Et puis il y a ce qu'on appelle les députés montagnards, qui seraient l'équivalent un peu des députés du Front de Gauche aujourd'hui. Il y a ces trois types de camps qui sont élus à l'Assemblée nationale et qui prennent des décisions pour le peuple. Donc, comme je vous disais, les Girondins décident d'aller faire la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Ils prétendent, à l'époque, que c'est pour propager le feu révolutionnaire, le feu de la libération, etc., etc., aux autres pays. Alors, bien entendu, il y a un personnage qui va encore s'opposer à ça, même s'il ne sera pas réélu hein, dans cette Assemblée nationale. Lui, Robespierre a sa tribune aux Jacobins, puisqu'à l'époque, il y avait des clubs comme ça, les Jacobins, les Cordeliers, où les gens se réunissaient dans des grandes salles et discutaient de tout ce qui se passait. Donc Robespierre, lui, il s'oppose à ça, hein, il trouve pas ça normal. Et les faits qui sont mis en avant par donc les Girondins, c'est le fait que ce soit pour propager le feu révolutionnaire, comme je vous disais, aussi également de faire une guerre préventive, hein, ce qui se fait à certains moments, prétendront certaines personnes, mais malheureusement, aucun historien aujourd'hui pourrait vous dire que la France était en danger de guerre et allait être attaquée. Parce qu'on pouvait se plaindre du front prusse et autrichien. Malheureusement, eux, ils étaient plus occupés par autre chose. Parce qu'il y avait Catherine II du côté de la Pologne qui attaquait un peu dans tous les sens aussi. Et donc, ils étaient plus tournés vers la Pologne. Ils se fichaient de la France à ce moment-là. Pourtant, à l'époque, en plus, Marie-Antoinette avait demandé à l'empereur d'Autriche de leur passer sur le corps, hein, je cite... Elle avait dit exactement dans ces mots-là, le plus grand service que vous puissiez nous rendre serait de nous passer sur le corps. Parce qu'ils avaient évidemment peur hein, des mouvements sociaux qui se déroulaient autour d'eux. Bien sûr, ils ne le feront pas parce qu'ils sont occupés par la Pologne. Donc la France n'est pas menacée. C'est un argument faux, fallacieux que donnent les Girondins. Et donc, en fait, la réalité de cette histoire, c'est qu'ils vont aller faire ce qu'on appelle une guerre de rapine. Ils vont aller faire la guerre pour s'accaparer des biens et permettre à la France de gagner des richesses. Donc voilà, la planche à billets à ce moment-là avait énormément tourné. Hein. On avait fait de la monnaie à l'époque, on avait fait les premiers argents en billets. On avait créé ce qu'on appelait l'assignat, qui était gagé sur la fortune ecclésiastique qu'on avait saisie hein, à l'église. Et le fait de faire... fonctionner la planche à billets avait provoqué une dévaluation d'environ 20% du billet. Donc l'objectif c'était de faire une guerre rapide pour renflouer les caisses et en permettre à l'assignat de reprendre de la valeur. À l'époque, donc, M. Narbonne en 1791 dit « Il faut faire la guerre, le sort des créanciers de l'État en dépend ». Donc c'est bien que ça prouve que c'était vraiment une guerre de rapine, c'était pas une guerre préventive. Il y a aussi Brissot, le 29 décembre 1791, un Girondin, qui dit « La guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure ». Ce qui veut dire par tranquillité intérieure, c'est tout simplement que la cariatide, comme dit Victor Hugo, le petit peuple, on va les déguiser en conscrit, et il va aller au front, et du coup, ben, il sera plus en train de provoquer des insurrections ou d'essayer de bousculer les choses hein, au final. Il sera au front et il sera obligé de se faire tuer pour le pays, pour certaines personnes qui ont décidé que. Donc au final, ça permet ce que le député Girondin appelle la tranquillité intérieure. Robespierre, à ce moment-là, comme d'habitude, va objecter en sens inverse. Il parle de reniement, puisqu'à l'époque de la Constituante, certains députés avaient décidé que la nation française déclarait solennellement qu'elle ne ferait plus jamais de guerre d'agression. C'est ce qui avait été décrété pendant la Constituante. Donc Robespierre parle de reniement, puisque ces personnes-là ne sont attaquées par personne et décident d'aller faire la guerre. Mais surtout, ce qu'il faut penser, c'est qu'à l'époque, la France est le pays le plus nombreux en Europe. Hein. Imaginons que la France se soit vraiment attachée à ce qu'elle en disait, qu'elle déclarait solennellement qu'elle ne ferait plus guerre d'agression, ça aurait pu être vraiment bien pour le reste des peuples. Mais Robespierre dit donc que si jamais on voulait élargir le feu révolutionnaire, tout simplement, ce qu'il fallait faire, c'était envoyer des émissaires, mais surtout pas des soldats, parce que... Tout le monde sait que ça allait provoquer de la haine envers la Révolution française. Donc, Robespierre pense que c'est une guerre de diversion pour aller voler les biens qui sont là-bas. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça suffira. On va se mettre un petit morceau encore. Et puis on entamera la suite du récit. La semaine prochaine, on va se mettre une petite musique dont on va pas mettre celle que vous avez entendue tout à l'heure d'ailleurs, pour changer du coup. On va mettre une musique de Noir Désir qui s'appelle Comme elle vient. Voilà. Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts. Nous arrivons au terme de l'émission. Donc ce soir, la Révolution française, on s'arrête en plein milieu du récit, je suis désolé, malheureusement, on a une heure d'émission, on peut pas trop dépasser, de toute manière, tout le récit ne rentrait pas, même s'il faisait encore une demi-heure de plus, donc c'est pas possible. On terminera la semaine prochaine, en espérant qu'on puisse terminer, peut-être qu'il faudra une émission supplémentaire, on verra. Le récit donc de la Révolution française. Je reprécise encore tout ce que j'énonçais au début de l'émission vis-à-vis des contacts. Donc nous avons la page Facebook, les yeux grands ouverts. Nous avons également la boîte mail si vous voulez faire tourner des morceaux ou des idées de n'importe quoi ou donner votre avis sur quelque chose. Donc c'est les yeux grands ouverts tout attaché, grand et ouvert avec un S, @laposte.net. Il y a le blog de Radio Canut concernant les yeux grands ouverts. Vous allez directement sur le planning et vous cliquez sur les yeux grands ouverts, vous tomberez sur le blog avec tous les podcasts, notamment les émissions sur l'autodéfense intellectuelle, les médias, la colonisation et tout ça. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours la campagne de soutien pour Radio Canut. Envoyez vos dons à Radio Canut, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Pour toutes les infos, je pense que ça ira pour ce soir. Alors, merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. J'espère que le récit de la Révolution française que j'entamais vous a plu. La présentation du personnage de Robespierre aussi. On va s'attacher la semaine prochaine à approfondir tout ça, parler du 10 août, de la déchéance du roi et de plein d'autres petits faits, notamment la fusillade au Champ de Mars, dont on ne parle quasiment jamais dans les livres d'histoire non plus. Hein. Les gens qui demandent la déchéance du roi, Lafayette envoie la garde nationale pour leur tirer dessus. Et le maire de Paris, d'ailleurs Bailly, qui faisait le malin pendant les états généraux, est responsable aussi de ce qui s'est passé, puisqu'il était présent avec Lafayette à ce moment-là. On ne sait pas lequel des deux a ordonné de tirer. Et puis voilà pour ce qui sera entamé la semaine prochaine. On parlera donc de la déchéance du roi et de la première république et du suffrage universel, qui ça pour le coup sera la vraie révolution et pas la bagarre de Nanty. Voilà, et ben je vous remercie encore de nous avoir écoutés ce soir, et puis je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis à la semaine prochaine de 23h à minuit, certainement avec un petit peu de retard, donc ce sera encore à partir de 23h10, et on se retrouvera pour finir le récit de la Révolution française. Je vous souhaite à tous une excellente nuit, amour et révolution comme à chaque fois, et à la semaine prochaine. Salut.
On n'a rien à foutre d'être français, parce que dans la cour de leur enfance, on allait de l'Afrique au Tibet. Oh, papa.